journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Prendre son mal en patience, on en est tous là et on n'a pas le choix quand il faut se faire tester, attendre pour se faire fouiller le nez et attendre encore pour avoir le résultat. La plateforme qui les délivre connaît de gros bugs, on va l'entendre. Alors faut-il changer de doctrine et arrêter de tester tous ceux qu'ils demandent? On posera la question à votre invité Nicolas.
Oui, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, à notre micro avec Léa tout à l'heure. Le standard vous attend, 01 45 24 7000.
Djokovic libéré, mais les ennuis ne sont pas finis pour le numéro 1 mondial du tennis retenu en Australie. Le gouvernement peut encore décider de l'expulser parce qu'il n'est pas vacciné. Sa participation à l'Open de Melbourne reste en suspens. Dans ce journal aussi, ces Français de l'étranger, parfois obligés de se survacciner, des doses dans leur pays de résidence et des doses en France. L'Ukraine, au cœur de discussions difficiles aujourd'hui entre Russie et les États-Unis. Et puis des soldes un peu tristes dans deux jours. La braderie d'hiver ne s'annonce pas folichonne, sauf sur Internet. Enfin, c'est l'année Molière qui commence 400 ans après sa naissance. Francis Huster milite pour son entrée au Panthéon.
France Inter.
Croisez les doigts pour ne pas avoir à se faire tester parce que ce sera long. Le gouvernement veut ouvrir des centaines de nouveaux centres de dépistage, mais en attendant, les queues s'allongent devant les labos et les pharmacies et le temps se dilate jusqu'au résultat. Avec 10 millions de personnes testées la semaine dernière, la plateforme Cidep, qui nous envoie un SMS pour nous informer du diagnostic, est elle aussi débordée, Ajra Mohamed.
Christelle n'est pas vaccinée contre le Covid-19, alors pour rendre visite à son père hospitalisé en région parisienne et pouvoir entrer dans l'établissement, elle a dû passer un test.
Donc je passe mon test antigénique samedi à 18h pour pouvoir aller voir mon père à l'hôpital le lendemain et je n'ai jamais reçu le résultat et du coup j'étais obligée de frauder et de demander à une copine un pass.
Au même moment, à quelques kilomètres de là, c'est Florence qui va en pharmacie pour faire dépister son fils de 9 ans, déclaré cas contact par son école. Elle a bien reçu le texto du CIDEP 2 heures plus tard.
Mais le site bug, il me dit que la date de naissance de mon fils est invalide et donc je n'ai pas accès au résultat du test. Et sans résultat du test, mon enfant ne peut pas retourner à l'école ce lundi matin. Donc je suis en galère.
Autre conséquence, dans la pharmacie de Bruno Felousse, près de Paris, le téléphone sonne sans arrêt.
Vous avez des personnes qui nous appellent parce qu'ils doivent partir en voyage, ils doivent rentrer à l'école avec des enfants avec un résultat. Et là, justement, le problème, il est qu'ils ne l'ont pas. Donc ils appellent toute la journée à la pharmacie. Et nous, on n'y peut rien en réalité. Et ça crée des tensions dans les pharmacies, dans les labos. Et je peux vous dire, je vous garantis, qu'il y a des pharmaciens qui ne vont pas tenir.
La Direction Générale de la Santé reconnaît des incidents récurrents sur Cidep, saturés par les saisies, mais aussi à cause de tentatives d'attaques informatiques. Elle promet d'augmenter la capacité des serveurs qui hébergent la plateforme.
À saturation, les profs et les directeurs d'école, de collège, de lycée le sont aussi, absorbés par la question des cas positifs et des classes entières tenues de se faire tester 3 fois en 5 jours. Tous les syndicats de l'éducation appelle donc à la grève ce jeudi, y compris, et c'est rarissime, les 3 syndicats des cadres du secteur. Celui qui représente les inspecteurs de l'éducation nationale, par exemple, en soutien des collègues de terrain contre les consignes du ministère. Patrick Roumagnac est secrétaire général du SIEN-UNSA, interrogé par Sonia Princet.
On a une espèce d'agitation permanente qui vient du niveau national, qui crée des tensions vraiment dans les écoles qui créent une sensation de malaise profond. La semaine dernière, si on regarde, on a eu 3 changements de protocole au fil de la semaine. C'est juste impossible. On ne peut pas être en permanence dans la modification, dans la transformation et de manière parfois radicale. C'est pas que ça soit compliqué à comprendre. Le ministère nous dit c'est tellement compliqué, on va vous aider, on va vous expliquer. Non, on a compris. Les protocoles, les enseignants le comprennent, les directeurs le comprennent, tout le monde comprend le protocole. C'est pas le souci. Le seul souci, c'est qu'il est inapplicable, le protocole, en bien des lieux. On le voit bien, le premier jour, on nous annonçait vraiment une rigueur absolue. Alors, pas de brassage, mais quand même, dans le cas des enfants de soignants, là, il faudra peut-être bien mettre un petit peu de brassage. Bref, ce cadre toujours plus contraignant, au lieu d'apporter la sérénité, il amène la tension. On est juste à rebours de ce qu'il faudrait faire.
Voilà, certains syndicats réclament le retour au protocole. Un cas dans une classe égale une semaine de fermeture. Des enseignants à qui le ministère a promis de distribuer des masques chirurgicaux. Jusqu'ici, on leur avait donné des masques en tissu, moins protecteurs, alors que la tendance du moment serait plutôt aux FFP2, les masques les plus sûrs du marché. On attend toujours, d'ailleurs, l'avis du Haut Conseil de la Santé publique sur leur généralisation. Ces masques, la France France pourrait les fabriquer massivement. Mais les producteurs sont un peu échaudés, Maxime Deps, parce que le Made in France, manifestement, n'a pas la priorité.
Par mois, Laurent Chatin, PDG de Damiron, petite entreprise dans l'Essonne qui s'est mise à la production de masques il y a un an et demi, assure qu'il peut produire beaucoup de CFFP2.
1,5 million, c'est notre capacité maximale. Aujourd'hui, on fait du stop and go, c'est-à-dire en fonction des commandes, on démarre la machine ou on l'arrête en fonction de ce qui rentre.
Problème dans ses clients aujourd'hui, des particuliers, oui, des entreprises aussi, mais encore trop peu de collectivités. L'État, notamment, ne fait pas assez le jeu du Made in France à ses yeux.
On a répondu à environ 5 ou 6 appels d'offres et on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est souvent des sociétés qui proposent des produits chinois qui sont retenus simplement pour une histoire de prix et pas du tout pour une histoire de qualité. Un gros appel d'offres auquel on a répondu était, pour ne pas la citer, la mairie de Cannes. Et je me suis aperçu que c'était une société qui faisait du négoce avec la Chine. Et nous, on considère que la qualité est très importante parce que c'est quand même un masque qu'on porte au plus près du visage, près des yeux. Et il ne faut pas mettre n'importe quoi sur le visage. Il faut mettre un produit français de qualité qui soit certifié en France.
Selon le syndicat des fabricants de masques français, aujourd'hui, 80% des masques utilisés en France, tout confondu, viennent de Chine. 20% de l'Hexagone.
Masqué mais pas vacciné, il dit avoir eu le Covid au mois de décembre. Mais Novak Djokovic pourra-t-il disputer l'Open d'Australie, retenu depuis 5 jours dans un centre pour migrants de Melbourne et sous le coup d'une procédure d'expulsion? Son cas était examiné ce matin par la justice australienne. Bonjour Winnie Claret.
Bonjour.
La décision vient de tomber, Djoko est libre, il va pouvoir changer d'hôtellerie. Mais est-ce qu'il va pouvoir jouer au tennis? Bah ça c'est pas gagné Winnie.
Et voilà, c'est la question qui se pose maintenant. En tout cas, ce n'est pas le dernier épisode du feuilleton Djoko, ça on peut vous l'assurer, puisque le gouvernement a prévenu par la voix de son avocat qu'il se réservait le droit d'annuler malgré tout le visa du tennisman serbe. Ce que l'on sait, c'est que le juge fédéral donc s'est montré sensible aux arguments des avocats de Djoko. Il s'est dit perturbé par le traitement réservé au numéro 1 du tennis mondial. À son arrivée à l'aéroport d'abord à Melbourne mercredi dernier, retenu toute la nuit par les agents des douanes, le téléphone coupé et puis sa détention dans un hôtel depuis 5 jours, là où se trouve aussi une trentaine de réfugiés. Djokovic non vacciné, vous le disiez, qui a été testé positif au Covid-19 à la mi-décembre. Voilà la raison de sa dérogation selon ses avocats. Là aussi, le juge se demande ce que le joueur aurait pu faire de plus pour prouver qu'il était exempté. Et même si le gouvernement australien martèle que ce n'est pas un argument valable pour entrer sur le territoire sans être vacciné, le Serbe a pour l'instant eu gain de cause.
Eux sont bien vaccinés, merci Winnie Claret. Survaccinés même, situation ubuesque pour des milliers de Français de l'étranger qui ont reçu des sérums que la France et l'Europe ne reconnaissent pas. Que se passe-t-il à leur retour? Ils ne peuvent pas bénéficier du pass sanitaire et sont donc obligés de se refaire piquer, Magali Homo.
Un véritable casse-tête pour Marion. Sur les conseils des autorités sanitaires françaises, elle se fait vacciner au Maroc, son pays de résidence.
J'ai reçu 2 doses du vaccin chinois Sinopharm.
Quand cette tourangelle décide de rentrer pour les fêtes, dès l'arrivée à l'aéroport, elle est considérée comme non vaccinée.
Accueil pas très chaleureux dans mon pays d'origine. On nous fait bien comprendre qu'on n'a pas bien respecté, on ne fait pas partie des règles françaises.
Pour avoir un schéma vaccinal complet en France, elle reçoit une dose de Pfizer, une injection qui n'est pas considérée comme un rappel.
On va être obligé d'avoir une 3e dose pour avoir le fameux pass vaccinal. Or moi, j'ai déjà dans le corps 3 doses officiellement. Je vais me transformer, quoi. Je vais devenir Robocop avec tout ce que je me prends de vaccin encore.
Même combat pour François. Il habite au Cambodge depuis 3 ans. Il doit jouer sur 2 tableaux.
La France ne prend pas en considération mon schéma vaccinal cambodgien et le Cambodge ne prend pas en considération mon schéma vaccinal français.
Pour résumer, il a 2 doses d'un vaccin chinois, 1 dose de Pfizer, sachant qu'il a aussi attrapé le Covid.
Techniquement, je suis un risque très très faible.
Une situation frustrante.
La 5e roue du carrosse, quoi. On s'occupe des Français de l'étranger. À la fin, quand on a réglé tous les problèmes en France, on se pose la question de comment on fait pour les Français de l'étranger.
Le Quai d'Orsay estime à 2 500 000 le nombre de Français installés à l'étranger.
Et du côté des Français d'outre-mer, Saint-Pierre et Miquelon, jusqu'ici épargnés par la pandémie, va à son tour instaurer le pass sanitaire à partir de mercredi. Fureur des opposants locaux au vaccin qui ont manifesté hier et s'en sont pris au député LREM Stéphane Clairaut avec sa femme juste devant chez lui, jet de Goémon et de Pierre, insulte. Soutenu par les ministres de gouvernement, il va porter plainte et sera protégé. Quand l'Afrique de l'Ouest isole le Mali, les pays limitrophes ont décidé hier de fermer leurs frontières, d'imposer un embargo, de couper les aides et de geler les avoirs du Mali à la Banque d'Afrique de l'Ouest. Mesure de sanction radicale contre la junte militaire au pouvoir qui veut se maintenir à la tête du pays 5 années de plus.
Il est 8h10, Florence, comment pourront-ils s'en s'entendre.
Russes et Américains réunis aujourd'hui à Genève pour parler de la situation en Ukraine. Washington redoute une invasion des troupes russes quand Moscou se dit menacée par les militaires et les installations de l'OTAN en Europe. Les discussions entre vice-ministres des Affaires étrangères s'annoncent compliquées. 100 000 soldats russes sont déjà massés aux frontières. Reportage dans la ville ukrainienne de Kharkiv, en première ligne en cas d'invasion. C'est aussi la plus russophile des villes d'Ukraine. Envoyé spécial, Eric Biegala.
Kharkiv, c'est 1,5 million d'habitants, la seconde ville d'Ukraine, un centre universitaire et un pôle scientifique et technique déjà reconnu du temps de l'URSS. Nous sommes ici à 40 kilomètres de la frontière avec la Russie et malgré l'atmosphère de fête qui règne en ville, la tension est palpable, assure Anastasia, commerçante du centre-ville.
On est tous sous tension et ce n'est pas seulement dû aux problèmes militaires. Il y a le coronavirus, la hausse des prix, les menaces de guerre. C'est toute une situation qui est tendue. Tout le monde est tendu.
Anastasia, qui vend des vêtements traditionnels ukrainiens, ne fait sans doute pas partie des russophiles de Kharkiv, lesquels représentent quand même la majorité, estime Oleg, la soixantaine, un ancien interprète du temps de l'URSS.
Je pense que la plupart des opinions est orientée vers le voisin nord.
Les gens ici se sentent plus russes qu'ukrainiens ?
La plupart, c'est certain. Je ne me sens pas ukrainien, mais nous avons voté pour l'indépendance de l'Ukraine.
Et c'est sans doute là la spécificité des Russes de Kharkiv. Ils peuvent adorer la Russie, ils la différencient parfaitement de son régime actuel.
Poutine, tôt ou tard, il va partir, mais la Russie reste.
Un voisinage parfaitement tolérable pour Oleg, pourvu que le régime moscovite se montre moins agressif. Kharkiv, Eric Biegala, France Inter.
En Birmanie, 4 ans de prison supplémentaire pour Aung San Suu Kyi, déclarée coupable d'importation illégale de talkie-walkie. La prix Nobel de la paix est assignée à résidence depuis le coup d'État d'il y a un an dans un lieu tenu secret. Pluie, inondation crue, 5 départements du Sud-Ouest en vigilance rouge. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Landes, la Haute-Garonne et l'Ariège. Les habitants sont invités à limiter leurs déplacements. Les routes pour rejoindre Andorre sont coupées et les transports scolaires annulés dans les vallées d'Aspe et d'Ossau. Des pulls et des manteaux moins chers, les soldes d'hiver commenceront mercredi. Mais encore sous le signe de la pandémie, l'esprit du moment serait plutôt à l'achat en ligne et au télétravail. Agnès Soubiran, l'ambiance est donc morose dans les boutiques, comme ici à Paris.
Que ce soit dans cette boutique un peu vieillotte du 16e arrondissement où Malika range machinalement des chemises en liberty.
C'est une catastrophe. J'ai eu une cliente aujourd'hui.
Ou dans cette rue branchée du 10e.
Le prêt-à-porter, maintenant tout se fait sur Internet. Donc forcément, Covid, je dirais que c'est la merde. Vivement qu'il s'en aille définitivement.
Le constat est donc le même. Un tiers de clients perdus en 2 ans, estime Eric Mertz, qui représente les indépendants du textile et de l'habillement.
Le contexte global est peut-être à la reprise, mais le secteur de l'habillement n'en a pas profité. Pour preuve, en 2021, pour la deuxième année consécutive, nous sommes en repli, nous sommes à moins 15,8% de chiffre d'affaires par rapport à 2019, qui n'était pas notre meilleure année de référence.
Alors ceux qui sont aujourd'hui les plus optimistes appartiennent à un réseau et ont déjà réussi leur transition numérique, comme le gérant du magasin Caporal à La Défense.
En fait, Omnicanal va nous permettre de satisfaire un client, aussi bien un client internet qu'un client magasin. Si je n'ai pas le stock, je vais le prendre sur un autre magasin. Et si le dépôt n'a pas le stock, il peut venir le piocher chez moi.
Ou possède une bonne dose de fatalisme comme Albert dans sa boutique Antoine et Lily.
En tant que commerçant, je suis obligé de rester serein dans la mesure où je ne peux pas prévoir. Donc je fais comme tout le monde et je m'adapte à la situation et j'espère avoir du monde.
Du monde, ironise certains commerçants, il y en a surtout en ce moment devant les pharmacies qui pratiquent des tests.
Agnès Soubiran, Jane Campion et Steven Spielberg récompensés au Golden Globe cette nuit. The Power of the Dog est sacré meilleur film et Jane Campion remporte le prix du meilleur réalisateur, de la meilleure réalisatrice. West Side Story, celui de la meilleure comédie ou comédie musicale. Enfin chez nous, c'est l'année Molière qui commence. On célèbre ce samedi 15 janvier, le 400e anniversaire du baptême de Jean-Baptiste Poquelin. Le baptême, oui, parce qu'on ne connaît pas avec précision sa date de naissance. Alors inutile de préciser qu'il y aura du Molière dans tous les théâtres de France en 2022. Molière est l'auteur le plus joué dans le monde. Voilà pourquoi le comédien Francis Huster continue à militer et à croire à la panthéonisation de son héros, Stéphane Capron.
De grands mystères continuent d'entourer la vie de Molière. Il n'y a aucune correspondance de sa main dans les archives, juste les registres de ses compagnies qui ont permis de retracer sa vie et bien sûr ses pièces. Elles sont indémodables pour Francis Huster.
Son génie
qui a bouleversé le monde entier pour la France et pour la gloire de la culture française, c'est d'avoir mis sur scène la langue, c'est-à-dire la langue du peuple. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des comédies stylées en alexandrin noble, lui, il met la langue du peuple. Et c'est pour ça qu'on dit du français, depuis 4 siècles, c'est la langue de Molière.
Depuis 2 ans, Francis Huster multiplie les ouvrages sur Molière. Il vit avec lui jour et nuit, avec une fixation, le faire entrer au Panthéon. Il ne désespère pas d'un geste d'Emmanuel Macron.
Je fais absolument confiance au président de la République. Je suis persuadé qu'il a la même opinion sur cette ouverture du Panthéon, cette gloire d'ouvrir ses portes de la légende pour Molière. Et ce sera magnifique. Et je sais que du fond du cœur, c'est son souhait.
Francis Huster a même posé un ultimatum à Emmanuel Macron. Il lui a dit que si Molière n'entrait pas au Panthéon, il ne monterait plus jamais sur scène.
Eh ben on verra si le président est sensible à cette pression. On se quitte sur cette gavotte de Lully.
Merci Nicolas. Florence, merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Marie-Pierre, c'est une triple vigilance sur les Pyrénées.
Oui Nicolas, à cause de cet épisode de pluie qui stagne sur ces régions, on attend jusqu'à 2 mois de pluie, d'où 5 départements placés en vigilance rouge pour crues et pluies, inondations des Landes aux Pyrénées-Atlantiques à l'Ariège. S'ajoute avec le redoux qui va déstabiliser le manteau neigeux, une vigilance orange avalanche pour ces départements pyrénéens, y compris les Pyrénées-Orientales. Et puis il y a toujours le Gers, hein, le Nord et l'Aisne en vigilance orange crue. À noter également que le vent va souffler sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 130 km/h et puis donc de la Bretagne à la Normandie en descendant sur le massif central à l'Hérault. Il va pleuvoir ce matin, alors que cet après-midi, à l'est d'une ligne qui relierait la baie de Seine, le centre, le massif central à Narbonne, vous aurez de belles éclaircies et ce sera plein soleil sur la façade est jusqu'en Corse, avec encore quand même quelques grisailles en Alsace et vers le Lyonnais.
Et les températures restent contrastées ce matin et cet après-midi.
Oui, le jour se lève, Nicolas, avec moins 4 à Briançon, moins 3 à Doullens dans la Somme, alors qu'il fait 13 à Saint-Jean-de-Luz. Vous avez moins 1 à Strasbourg, mais 10 à Toulon. Et cet après-midi, il ne fera pas plus de 2 à Abondance, en Haute-Savoie, 3 à Belfort, 5 à Dijon, 7 à Paris et Grenoble, 8 à Bourges, comptez 12 à Toulouse et Montpellier, 13 à Quimper, 14 à Bastia et 15 à Mont-de-Marsan.
Merci Marie-Pierre. 8h17, Géopolitique, Pierre Aski.